Espace Médias Citoyens est un magazine qui vous propose des reportages réalisés par les salariés et bénévoles de la coordination des radios associatives non commerciales de Rhône-Alpes. Diffusion sur Couleur FM lundi, dimanche à 17h et mercredi à 11h.
Jacques Berchtold, vous proposez à la Fondation Martha Bodmer aujourd'hui une exposition Frankenstein crée des ténèbres. 200 ans après la création de l'ouvrage de Madame Shelley, pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Disons simplement que par rapport aux intérêts de Martin Bodmer, la littérature fantastique n'était pas une priorité absolue. Donc la raison est plutôt de marquer la commémoration de ces 200 ans de l'événement littéraire Colognotte le plus important, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre chef-d'œuvre de dimension mondiale incontestable qui ait été rédigé à Cologny. Et Marie Shelley a rédigé Frankenstein à environ 700 mètres du siège du bâtiment où nous nous situons en ce moment, c'est-à-dire la Villa Diodati, qui est appelée comme ça maintenant, du temps de ses propriétaires de l'époque, ça s'appelait la Villa Bellerive, et qui a été louée par Lord Byron pour l'été 1816.
Rappelons un petit peu qui étaient ces jeunes gens débarqués de l'Angleterre, très jeunes, un peu, je dirais, contestataires.
Oui, alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas le pédigré le plus notable, le plus conservateur. C'était des trublions. La future Marie Shelley accompagnait sa demi-sœur, qui était déjà enceinte de Byron et qui rejoignait donc son géniteur, alors que elle-même, qui allait à l'occasion de ce séjour se rapprocher encore de son futur mari, le grand poète Shelley, elle était surtout, de façon remarquable, la fille de Godwin, c'est-à-dire un radical anglais, l'un des rares anglais qui a osé à haute voix approuver la Révolution française et s'en faire le défenseur de façon fanatique, ce qui vaudra à la sortie du roman de Frankenstein, dès lors qu'on aura identifié son auteur, on prendra pour cible les idées politiques insupportables pour l'Angleterre conservatrice de son temps pour attaquer une sorte d'allégorie favorable à la Révolution française qu'on voudra lire dans le roman. Et puis, il y avait donc cette demi-sœur, il y avait Shelley qui rencontrera ici, durant tout cet été 1816, Lord Byron pour la première fois de sa vie, et ce sera avec en plus ce médecin anglais de Byron, Polidori, un petit quatuor où à des moments ils sont cinq, tout à fait détonnants, qui passeront du temps ensemble et qui s'inventeront des passe-temps.
La future Madame Shelley a 19 ans, donc elle est bien jeune. Quel âge avait Byron ? Quel âge avait Shelley à l'époque ?
Ah oui, ils étaient jeunes aussi. Ils étaient également très, très sportifs. Ils avaient envie de faire des excursions. Ils étaient en appétit d'effort physique. Donc, ils étaient venus pour gravir les Alpes et conquérir des points de vue les plus remarquables possibles sur ce qu'il devenait une grande mode, était en grande vogue en Angleterre, c'est-à-dire le panorama sur la mer de glace de Chamonix. Alors, c'était ces jeunes gens pleins de fougue qui étaient là et qui ont en quelque sorte été frustrés de ce pourquoi ils séjournaient ici à Cologny, être à pied d'œuvre pour des excursions en direction des Alpes à cause d'un mauvais temps chronique qui a marqué, au-delà du bassin lémanique, qui a marqué la Suisse, la France et la planète entière du fait de la présence d'une sorte de nuage de cendres et de calotte de ténèbres qui a fait nommer cet été de 1816 un été sans soleil. Donc ils se sont rabattus sur des exploits nautiques sur le Léman. Ils ont fait énormément de rames et de voiles sur le Léman. Ils ont multiplié les excursions en direction du château de Chillon, de Vevey, de Clarence, de Coppet. Ils ont été été voir le cercle de Madame de Staël, ils ont été voir les sites du roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse, ils ont été voir ce château de Chillon où Bonivard a été enfermé, ce qui a inspiré un très très beau séjour à Lord Byron. Et puis rajoutons...
Il a écrit d'ailleurs, il a même immaculé le site, puisqu'il a gravé même son nom sur une colonne.
Absolument, c'était la mode de ces Anglais de laisser une signature sur les lieux qu'on avait traversés. Alors, rajoutons simplement au niveau de ses efforts physiques, Byron, qui avait aussi une vie sexuelle très active, eh bien Byron faisait beaucoup de natation. C'était un champion de natation et il se baignait dans le lac de façon assez nouvelle.
Nu, vous voulez dire?
C'est-à-dire que les écoles de natation, la capacité de nager était encouragée par Jean-Jacques Rousseau dans les milles, mais ça n'était pas quelque chose de si courant que ça, que de savoir nager. Et Byron était célèbre pour ses performances de natation. Mais comme on ne peut pas faire des efforts physiques tout le temps seulement, eh bien voilà que il s'amusait à des rendez-vous littéraires également. Et c'est à la suite d'une soirée où il s'était lu en étant tous ensemble des histoires de fantômes traduits de l'allemand en français, une anthologie que nous montrons dans l'exposition. C'est à la suite de cette lecture qu'ils ont décidé de passer à l'acte d'écriture et qu'ils se sont proposés, c'est l'idée de Byron, un concours d'écriture. Chacun devait rédiger une histoire de fantôme. Et Byron, par exemple, a écrit une histoire de fantôme. Par contre, lors de ce concours, que de façon extraordinaire, voilà que Byron et Shelley n'ont pas laissé des traces inoubliables de cette nuit de rédaction. Et de façon un peu inattendue, c'est le médecin de Byron, Polidori, qui crée un conte de Vampire, le vampire, qui est l'une des premières histoires vraiment homogènes sur la notion de vampire, et ça sera plus tard une des sources principales du Dracula de Bram Stoker. Eh bien, ce vampire, Polidori, pour des affaires de marketing, prêtera la confusion et la première parution laissera courir la rumeur que c'est Byron qui l'a rédigé. Eh bien, il en est de même pour Mary Shelley. De façon inattendue, voilà que c'est Mary Shelley qui écrit lors de cette soirée, qu'on situe le 16 juin 1816, l'histoire la plus étonnante. Elle invente l'histoire d'un médecin explorateur qui a été lire des livres interdits, des livres d'alchimie, qui connaît les théories les plus récentes sur l'étincelle de la vie qu'on prête à l'électricité, etc. Eh bien, elle fait un mélange de tout ça avec cette atmosphère de fantastique et de gothique qui lui vient de la nuit précédente, de cette ambiance des histoires surnaturelles, et elle rédige l'histoire du docteur Frankenstein, créateur de cette créature à partir de bouts de cadavres assemblés dans les cimetières auxquels on donne de Spark, l'étincelle de la vie. Et bien là aussi, Mary Shelley n'osera pas le faire paraître sous son nom, d'abord parce que un roman qui paraîtrait sous le nom d'une femme serait discrédité, et pour d'autres raisons aussi. Donc le roman apparaîtra sous une forme anonyme. Et bien là encore, comme on ne prête qu'aux riches, on dira longtemps, surtout dans des milieux évidemment antiféministes, que Mary Shelley n'a fait que prêter le nom à son futur époux Shelley, qui aurait pris une part prépondérante dans la rédaction. On sait aujourd'hui que Mary Shelley est véritablement l'auteur de son texte. Nous avons les manuscrits de la main de Mary Shelley, et nous exposons les manuscrits. La Fondation Martin Bonnemère a emprunté donc ces manuscrits. C'est une exposition qui rassemble comme jamais dans l'histoire une exposition autour de Frankenstein, qui rassemble des documents empruntés à la British Library, à la Bodleian Library à Oxford et également à la Pierpont Morgan Library de New York. Donc nous avons des documents de Marie Shelley seule, des documents où on voit qu'elle a fait relire par Shelley et on voit l'écriture de Shelley qui propose des corrections, qui barre certaines choses du texte de Marie Shelley, qui rajoute ses propres suggestions, ses annotations, mais on voit que bien qu'ils aient été en totale entente et que Marie Shelley faisait une confiance absolue au goût littéraire très sûr de son mari, eh bien, l'armature, la conception profonde du roman revient quand même à Marie Shelley.
Il y a aussi des illustrations. Les premières éditions qui sont sorties étaient illustrées.
Alors, le roman, nous le disions, la première rédaction, c'est celle que nous célébrons. L'étincelle de la rédaction du Frankenstein, c'est le 16 juin 1816. Marie Shelley mettra encore 2 ans pour perfectionner, développer, clarifier son propos. C'est donc en 1818 qu'elle y met le point final. Il y a des éditions qui se succèdent à partir de l'édition originale anonyme de 1818. Il y a une très belle édition 1821. Etc. Et c'est véritablement en 1831, comme le roman a acquis une notoriété certaine, que les illustrateurs commencent à compléter le texte d'une série d'illustrations. Alors, ce qui est formidable quand on lit le texte à l'état brut, c'est qu'il est en quelque sorte encore vierge d'images infligées par des illustrateurs et que chacun peut, à partir des descriptions littéraires qui sont très ouvertes, se représenter la créature à sa guise. Et la créature a vraiment été représentée sous 1000 formes différentes avant d'être un peu malheureusement fixée par le cinéma d'Hollywood. Chacun, quand on dit Frankenstein, n'a pas en tête les gravures originales de cet artiste anglais de 1831, mais plutôt la figure exceptionnelle de l'acteur Boris Karloff. Et malheureusement, c'est à la fois formidable, parce que j'ai une grande admiration pour cette série de films sur Frankenstein tournée par Hollywood, mais je dis malheureusement parce que cela ferme un peu la liberté des représentations, alors que le texte de Marie Shelley, auquel il faut revenir absolument, était beaucoup plus ouvert au départ.
Tout de suite, il y a eu beaucoup de traductions.
Alors, nous montrons un certain nombre de traductions. C'est évidemment un signe de faveur exceptionnelle. Nous montrons également la première édition jamais publiée aux États-Unis. Donc, c'est également une édition du début de ces années 1830 qui, il n'y en avait qu'un seul exemplaire ici en Suisse. J'ai donc été le chercher à la bibliothèque de Sion où quelqu'un avait fait un don. Et par hasard, il y a donc un seul exemplaire de l'édition originale de Frankenstein publié sur sol américain qui est aimablement prêté par la bibliothèque de Sion. Alors, nous montrons en effet dans cette exposition qu'il s'agit d'un phénomène international. D'une part, ces histoires de fantômes qui ont été la chicno d'Initiane viennent d'Allemagne. D'autre part, le nom de Frankenstein, on a pu montrer 2 sources possibles autour d'un obscur alchimiste allemand. Donc, il y a tout un terreau d'Allemagne qui faudrait explorer en détail et qui permet de lier, notamment, que certains ne se sont pas privés de le faire, le mythe de Faust de Goethe, qui est un alchimiste. C'est la première grande figure de tragédie héroïque et d'héroïsme tragique qui prend comme sujet proprement moderne un savant qui enfreint les tabous, qui dépasse les limites et qui crée du vivant. Hein? Le second Faust de Goethe, celui qui a été traduit par Gérard de Nerval, mettent en faveur dans l'Europe entière cette histoire du savant alchimiste qui crée l'homunculus, donc qui crée à partir d'une expérience biologico-chimique du vivant, une prérogative qui n'était réservée qu'à Dieu le créateur par excellence. Donc il y a là quelque chose de forcément blasphématoire, de forcément sacrilège, qui montre qu'on est dans un monde qui à la fois s'émancipe des interdits théologiques, mais qui a une culpabilité énorme par rapport à cette scientificité potentielle qui est en train d'être délivrée par une pensée héritée du siècle des Lumières, de concevoir au fond le vivant comme relevant de la science, comme d'autres domaines. Alors, c'est un phénomène européen et nous montrons notamment l'influence de la littérature française également sur ces auteurs, que ce soit Byron ou Shelley. Ils étaient emprunts de la lecture de Rousseau et on peut dire à beaucoup d'égards que le mythe de Frankenstein est une prolongation de la réflexion de Rousseau, à la fois sur la société, sur les dangers des sciences et des arts et également sur la bonté naturelle de l'homme. Je m'explique, la créature, bien que créée par Victor Frankenstein, est essentiellement bonne au départ. Elle s'éduque tout seule comme l'enfant naturel rêvé dans une éducation idéale par Jean-Jacques Rousseau. Elle s'auto-éduque de façon autodidacte au contact de la nature et elle découvre des sentiments de bonté qui lui sont naturels. La nature a fait la créature bonne. C'est au contact de la société, tout à fait conformément aux analyses de Rousseau, que la créature va découvrir qu'elle sera repoussée parce que les premières personnes rencontrées la jugent sur son aspect physique et extrapolent et pensent que sur le plan moral, elle ressemble à l'aspect qu'elle présente sur le plan physique. Donc la créature va peu à peu être repoussée à son insu et contre ce qu'elle est profondément, elle va être poussée à rejoindre une identité de méchant monstre que lui inflige la société, que la société lui impose de rejoindre. Alors, nous avons une fable rousseauiste qui va dans le sens de l'analyse de Rousseau, que Rousseau fait à propos de lui-même. On sait que Rousseau s'est aussi vu comme le nouveau Prométhée qui, parce qu'il apportait des idées novatrices aux hommes sur leur essence et sur l'essence du lien social qui devrait unir les hommes, parce que cette lumière propre qu'il apportait à l'humanité déplaisait aux hommes, la conséquence, c'est qu'il a été un réprouvé, un apatride, un nomade, quelqu'un à qui on jette des pierres. Il joue le rôle de bouc émissaire. Alors, on a beaucoup rapproché le sort de la créature à différents éléments de la réflexion rousseauiste, que ce soit l'enfant de la nature qui, parce qu'il est idéalement instruit et éduqué au bon contact de la nature, n'est précisément pas adapté du tout à s'insérer dans une société où l'homme est totalement dénaturé et où les hommes ne voient pas eux-mêmes, ils sont aveugles à propos d'eux-mêmes, qu'ils ont quitté cette vocation naturelle. Mais nous avons également un formidable procès, tout à fait dans les conclusions du premier discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau, disant que plus on progresse dans les sciences et les arts, plus l'humanité fait son malheur, au fond. Eh bien, là, nous avons un hiatus total entre l'idéal du docteur Victor Frankenstein de dépasser les frontières des expériences déjà faites en apportant une créature idéalement fabriquée par l'homme qu'il est lui-même et qui devrait être au-dessus des maladies, au-dessus du vieillissement et peut-être apporter la promesse d'une victoire sur la mort. Eh bien, au lieu de ça, cet excès de confiance dans les pouvoirs scientifiques de l'homme va apporter une catastrophe, c'est-à-dire que ce que l'homme a produit en laboratoire, avec toute son arrogance vis-à-vis de sa supériorité au sein de la nature et de son émancipation vis-à-vis de Dieu, eh bien, ce que l'homme fait par ses propres pouvoirs va tourner au désastre et va prouver qu'au fond, Rousseau, sur ce point-là, aurait eu raison, l'homme aurait mieux fait de rester dans les bornes de son pur instinct et d'une proximité de la nature qu'il n'aurait pas dû quitter.
que le livre a été interdit?
Non, alors il n'y a pas d'interdiction à proprement parler, c'est simplement nous montrons dans l'exposition les comptes rendus qui paraissent. Donc les comptes rendus sont extrêmement sévères du point de vue des conservateurs anglais. Au contraire, il y a une approbation immédiate de l'école romantique anglaise et notamment du plus galonné d'entre eux qui est Sir Walter Scott. Sir Walter Scott prend la plume pour faire un compte rendu élogieux du livre de Mary Shelley. Et en quelque sorte, la messe sera dite, si j'ose dire, avec l'adoubement de ce chef de file de la littérature de Grande-Bretagne. Le succès sera désormais assuré et Frankenstein sera lu par un lectorat très vaste, très divers et sera traduit dans toutes les langues. Oui.
Est-ce qu'il y a en Europe d'autres, des certains pays ou certaines nations qui ont été plus attentives, où il y a eu plus de succès que d'autres ?
Alors, il est certain qu'en France, où il y avait cette école romantique contemporaine, celle de Chateaubriand, celle de Victor Hugo, etc., il y avait un terreau particulièrement favorable, et nous montrons donc dans l'exposition les premières traductions en français. Il n'a pas non plus été tout à fait extérieur au succès auprès du public francophone de savoir qu'il y avait tout ce contexte de postérité à Rousseau qui tenait lieu à cette coïncidence du bassin lémanique, c'est-à-dire que Rousseau était très étroitement associé au romantisme par la sensibilité qui était mise en vedette dans la nouvelle Héloïse. Les romantiques français étaient à l'écoute de ce ton nouveau. Eh bien, tout ce qui était renaissance et reviviscence du terroir lémanique rappelait cette origine romantique du roman de Rousseau. Or, il y a cette double mythologie qui s'attache au roman de Frankenstein d'avoir été rédigé en exil loin de l'Angleterre dans une région francophone, premièrement, ici tout près de la Genève, ville natale du citoyen de Genève qui était Rousseau, et d'autre part que le roman se passe à Genève. Parce que c'est un roman, au fond, qui a pour décor et théâtre Genève. Victor Frankenstein, ne l'oublions pas, dans le roman, est professeur de médecine à l'université de Genève, et la créature, rappelons-le, commet son premier meurtre sur la plaine de Plainpalais. Donc la créature, lorsque Victor Frankenstein veut le poursuivre pour détruire cette œuvre parce qu'il pressent tout à coup qu'il a fait une catastrophe, va grimper à toute vitesse sur le salève, et en quelque sorte le salève en tant que contrefort menaçant des Alpes au-dessus de Genève, le salève à lui tout seul est l'ambassadeur de ce massif alpin qui joue un rôle formidable dans le roman, puisque le massif alpin représente en quelque sorte les géants immémoriaux d'une espèce de sanction de la nature reposant autour de la petite ville fragile de Genève, et la créature trouvera refuge dans les Alpes comme elle cherchera plus tard le lieu qui lui convient, qui est une sorte de transposition du décor alpin qui est le paysage des glaces du pôle Nord. Donc, à cause de tout ce théâtre, ce décor de l'intrigue, où Genève et Chamonix jouent un rôle essentiel, eh bien, ce roman sera particulièrement en faveur auprès du public français. Rajoutons que toutes les choses sont dialectiques. Il y avait un essor du tourisme naissant des Alpes qui avait amené Byron, Shelley, Mary Godwin ici à Genève. Parce que la météo était mauvaise, ils n'ont pas pu faire leur excursion, ils ont écrit ces histoires-là, mais par un formidable retour dialectique, voilà que les romans produits ici vont contribuer à confirmer la mode du tourisme alpin. Tout lecteur de Frankenstein voudra aller voir le glacier de Chamonix, où il y a le grand dialogue entre Victor Frankenstein et la créature. Il y a 6 chapitres dans le roman où la créature fait sa confession générale et son autobiographie au docteur Frankenstein qui l'écoute. Tout cela se passe dans le décor de la mer de glace de Chamonix. Eh bien, alors que Byron et Shelley venaient ici sur le Léman pour vivre sur les lieux l'intrigue de la nouvelle Héloïse, leur leurs lecteurs, à leur tour, viendront ici nourrir le tourisme naissant des Alpes et visiter à la fois Genève, Cologne, et venir en pèlerinage à Chamonix. C'est assez étonnant, cette étroite corrélation qu'il y a dans ces années-là entre l'essor du tourisme et la production littéraire. On peut peut-être ajouter que le Grand Tour était une tradition pour l'aristocratie anglaise. On faisait son Grand Tour et jusqu'au XVIIIe siècle, on passait à travers la Suisse aussi vite que possible, en se bouchant les yeux si possible, tellement il n'y avait pas de valorisation de la beauté des montagnes. C'était jugé horrible, indigne d'être regardé. Il fallait aller en Italie aussi vite que possible. Le but d'un grand tour de formation de quelqu'un qui était un anglais entre l'adolescence et l'âge adulte, qui faisait une année de grand tour, c'était d'aller aussi vite que possible à Rome pour être au contact des beautés de l'Antiquité et du Quattrocento italien. Tout change à partir des Alpes de von Haller et de la théorie du sublime de Burke. La théorie du sublime de Burke englobe ce qu'on entend comme beauté avec connotation jolie, et la laideur, c'est-à-dire que l'horreur et le monstrueux sont intégrés dans le sublime comme faisant partie du grandiose dont la beauté traditionnelle n'était qu'une composante. Et dans cette acceptation beaucoup plus englobante et accueillante du sublime, qui est une catégorie donc subsumante, les Alpes sont complètement réévaluées comme étant à la fois beautiful et à la fois horrifique, c'est-à-dire alliant dans une sorte d'oxymore sublime la monstruosité de la laideur et la monstruosité de la beauté. Donc nous avons un essor du tourisme alpin, en particulier de la part des Anglais, qui tient beaucoup à cette redéfinition de la catégorie du sublime en esthétique par Edmund Burke, qui en finit avec la catégorie étroite d'un sublime qu'on devait notamment à la traduction des textes grecs par Boileau et qui lui assignait des limites beaucoup trop sages.
Dans le fond, la créature de Madame Shelley, c'est l'Idylle des Alpes.
Absolument, c'est une très très bonne suggestion. La créature a un rapport métonymique avec les Alpes. On est contemporain du roman de Balzac, où Balzac va soigneusement décrire les habitats pour faire comprendre le caractère des habitants. Eh bien, nous avons exactement la même chose qui se joue avec la créature. Pour comprendre la créature, et en guise d'explication psychologique de ce qu'elle est, il faut décrire la nature désertique, stérilisée, ardue, rugueuse, du climat, des glaciers, de l'âpreté des roches qu'il faut traverser, de la difficulté des êtres vivants à survivre dans un tel habitat. Eh bien, tout cela est conforme à la créature, et la créature trouve dans les Alpes son habitat idéal. Elle qui est malheureuse au plus haut degré parmi les hommes, où elle n'est perçue que comme le monstre difforme faisant honte à l'humanité et devant être lapidée et exécutée, elle qui a de la peine à courir d'un village à l'autre en évitant la vindicte populaire, eh bien trouve une sorte de paix paradoxale dans le paysage grandiose des Alpes. Eh bien, nous avons dans la créature la même contradiction que dans le paysage alpestre, à la fois du grandiose et puis cette part de terrifiant, d'inquiétant, qui fait que la créature, en dépit de ce qu'elle dit d'elle-même et de sa bonté naturelle, présente tout de même des aspects qu'il nous faut redouter du fait même de son origine impure. Hein, quelqu'un dont la vie a été donnée alors qu'elle est le résultat d'un assemblage de pièces de cadavres rassemblées de briques et de brocs dans les différentes tombes d'un cimetière, ça n'est pas quand même quelque chose qui inspire la relation facile de premier abord.
Et ce n'est pas morale en plus.
Non, alors la question de la morale se pose ici, et nous avons ce premier roman consacré à la scientificité. Hein, on n'aurait pas de roman qui prend de façon aussi centrale le sujet de la science moderne que le fait Marie Shelley avec Frankenstein. Nous aurons au contraire ensuite alors une postérité formidablement féconde de ce registre du roman prenant des savants fous ou des savants expérimentateurs. Citons tout simplement, pour nous en tenir à deux exemples, l'œuvre de Jules Verne et puis Robert Stevenson avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui.
Espace Médias Citoyens est un magazine qui vous propose des reportages réalisés par les salariés et bénévoles de la coordination des radios associatives non commerciales de Rhône-Alpes. Diffusion sur Couleur FM lundi, dimanche à 17h et mercredi à 11h.